Les stéréotypes concernant les femmes ont toujours la vie dure, et même si les inégalités entre les garçons et les filles dans les sociétés occidentales se sont considérablement réduites, et bien les croyances concernant le genre restent bien ancrées. Le magazine Cerveau Psycho consacre ce mois-ci sa une à la parité dans le but de faire sauter les verrous psychologiques qui sont à l'origine des inégalités. Il montre à quel point les stéréotypes infectent l'esprit et perturbent l'image de soi. C'est le dossier de l'émission dans un instant avec vos messages et vos questions pour nous rejoindre sur franceinter.fr et le mot-clé l'attaque. Axel Villard, bonjour.
Bonjour.
À la une de la science aujourd'hui, un utérus artificiel testé chez le mouton.
Oui, les 4 dernières semaines de gestation de plusieurs agneaux ont été réussies dans des incubateurs en plastique aux États-Unis. Un grand pas vers l'utérus artificiel avec bien sûr en toile de fond des applications humaines. On en discute avec le gynécologue obstétricien, Israël Nizan.
Et puis comme tous les mercredis, nous retrouverons la science grand format avec nos camarades de France 5 qui s'intéressent ce soir aux conquérants du ciel. Stéphanie Texier réalise cette tête au carré, préparée aujourd'hui par Lucie Sarfati.
La tête au carré, le magazine scientifique de France Inter. Mathieu Vidard.
La parité et la lutte contre les stéréotypes, tout à l'heure dans le dossier, je salue mes invités, le chercheur Thomas Bredast et Bastien Boller avec nous en studio, bonjour.
Bonjour. Bonjour.
Et par téléphone, l'anthropologue Catherine Monod, bonjour à vous.
Bonjour.
Sébastien Boller, la parité est à portée de main, c'est un message plutôt positif que vous délivrez dans Cerveau et Psycho ?
Oui, parce qu'on peut voir le verre à moitié vide ou le verre à moitié plein sur cette question-là. Ouais. Le verre à moitié plein, effectivement, c'est que l'égalité entre les genres n'a cessé de progresser depuis maintenant un demi-siècle. Et même la réussite scolaire des filles rejoint et même dépassé celle des garçons selon les grandes enquêtes PISA. Mais il reste toujours du chemin à parcourir. Et si on veut vraiment y arriver, là, il faut vraiment se pencher sur le fonctionnement de la psyché.
Catherine Monod, vous partagez ce sentiment ? Les inégalités se réduisent vraiment ?
Oui, du point de vue des lois et du droit, bien sûr, il y a eu des avancées importantes, mais on voit que la progression n'est pas linéaire, qu'elle n'est pas aussi rapide que l'on l'aurait pensé, qu'il y a même parfois des régressions.
Thomas Bredast, au travail, la parité, elle a quand même encore un petit peu de chemin à faire, non ?
Ah oui, quand même encore un petit peu, puisqu'il reste environ 25% d'écart de salaire entre les hommes et les femmes, même si, là aussi, si on prend les indicateurs statistiques objectifs, on voit qu'il y a plutôt une réduction, mais assez lente, de ces inégalités.
On va expliquer les ressorts psychologiques qui expliquent beaucoup de choses justement dans le cadre de ce thème sur la parité et les stéréotypes avec les messages des auditeurs qui nous rejoignent sur franceinter.fr. Et un utérus artificiel pour grands prématurés qui vient d'être testé avec succès chez le mouton et c'est aujourd'hui à la une de la science.
Après la pilule contraceptive, l'insémination artificielle, la fécondation in vitro, une prochaine étape sera l'ectogenèse. C'est-à-dire
l'utérus artificiel, c'est-à-dire la possibilité de faire se développer un bébé depuis la fécondation jusqu'à la naissance en dehors du corps d'une femme.
Voilà, extrait du documentaire L'utérus artificiel, le ventre de personne, réalisé par Marie Mandy, avec à l'instant la voix du biologiste et philosophe Henri Atlan et ses prédictions sur l'utérus artificiel qui deviennent de plus en plus réalité. Une équipe de chercheurs américains de Philadelphie vient donc de parvenir à mener à terme la fin du développement d'un agneau dans un utérus artificiel, une sorte de poche en plastique qui mime au plus près la physiologie de l'utérus de la brebis. Bonjour Israël Nizan.
Bonjour.
Vous êtes en ligne avec nous, vous êtes gynécologue obstétricien aux hôpitaux universitaires de Strasbourg, cofondateur du Forum européen de bioéthique. Comment avez-vous réagi à la lecture de ces résultats publiés dans Nature Communication ? Est-ce que vous avez été surpris ou pas ?
Pas surpris, parce que l'expérience avait déjà été tentée et la technologie s'améliorant, on va faire des pas de plus en plus importants et de plus en plus rapides vers l'utérus artificiel. Et donc, est-ce que c'est une bonne chose pour l'homme ? Ça, c'est une autre question. Mais sur le plan technique, on va savoir de mieux en mieux recopier le milieu intra-utérin, le recopier puis le dupliquer.
Alors, les auteurs parlent de système physiologique extra-utérin. Ils n'emploient pas le mot utérus artificiel. Ça ressemble à quoi exactement ?
Ça ressemble à un grand sac de plastique plein de liquide physiologique chauffé correctement. C'est le cœur du petit agneau qui fonctionne et non pas un cœur artificiel, ce qui évite les sautes d'hypertension car le cerveau est extrêmement fragile à cet âge-là. Et simplement, la respiration est maintenue par une oxygénation externe du sang, une sorte de cœur artificiel ou plutôt de poumon artificiel externe.
Qu'est-ce qui a fait la différence entre les précédents échecs et la réussite cette fois, du coup?
Les précédents échecs étaient dus à des hémorragies cérébrales liées aux fluctuations de la tension artérielle parce qu'on a essayé de suppléer la fonction cardiaque du fœtus. Là, ils n'ont pas essayé de la suppléer et donc il n'y a pas eu ce genre d'accident. Et il y a un des cobayes, si j'ose dire, qui a été laissé vivant et qui semble aller bien. On ne sait pas, bien entendu, ce qu'il en est de ses fonctions cérébrales.
Voilà, les autres ont été euthanasiés en l'occurrence.
Oui. Hein.
Comment se porte justement cet agneau parvenu à terme? Est-ce qu'on sait à peu près dans quel état il est, s'il est en bonne santé?
D'après la publication, il semble gambader comme ses congénères. Mais une des choses qui est laissée dans l'ombre de cette publication, c'est que la naissance très prématurée d'un enfant pose des problèmes respiratoires, mais aussi des problèmes de maturité cérébrale, qui sont peut-être pas les mêmes chez l'agneau que chez l'humain.
Alors, la gestation du mouton est de 5 mois. Là, l'équipe de Alan Fleck réussit le dernier mois. Quels sont les obstacles pour vraiment externaliser une grossesse complètement?
Il y en a de nombreux. Je pense qu'on est sur les premiers pas de cette évolution. Je ne sais pas s'il faut appeler ça une évolution, mais il y aura de très nombreux obstacles. Et les plus importants ne seront pas sur la plus proche partie de la prématurité. Les plus importants, ça va être l'implantation embryonnaire dans la muqueuse de l'utérus qui pose des problèmes extrêmement complexes qu'on ne connaît pas actuellement. Donc, on sera capable probablement de mieux traiter un prématuré grâce à ces recherches. Pour l'instant, c'est tout.
Alors, il y a aussi un obstacle peut-être psychologique, parce que quand on regarde les photos de ces recherches...
Elles sont très impressionnantes,
voilà,
d'ailleurs, Axel.
On se rend compte que c'est vraiment très lourd comme dispositif. On se demande quelle femme accepterait de voir son enfant grandir
dans une poche en plastique,
d'elle, quoi.
D'abord, il y a des femmes qui n'ont pas d'utérus et qui, aujourd'hui, sont prêtes à courir des risques énormes pour avoir une greffe d'utérus ou pour demander à une autre femme de porter leur enfant à leur place. Deux options et deux voies qui sont complexes. Il y aura sûrement des femmes candidates lorsqu'on sera capable, j'allais dire d'ici 40-50 ans, d'avoir une grossesse complètement extra-utérine. Il y aura beaucoup de femmes qui auront envie de cela pour elles.
Israël Nizan, on sait également que le son, le contact, évidemment, les battements du cœur de la mère sont excessivement importants, à la fois pour la survie du bébé, mais aussi pour sa santé mentale. Comment est-ce qu'on pourrait s'affranchir de tout cela dans le cadre, justement, du recours à l'utérus artificiel?
Tout cela s'imite, et s'imite de manière de plus en plus sophistiquée avec les progrès de la technique. Et donc, l'humain est capable de recopier ce qui se passe dans la nature. J'en veux pour preuve ce qui s'est passé en matière de fécondation in vitro. On a su recopier de mieux en mieux les liquides et les milieux de culture, de telle sorte que les premiers stades de la vie, on sait maintenant les gérer hors du corps humain. C'est plus compliqué plus tard dans la vie fœtale, mais on va y arriver aussi.
Alors vous l'avez dit tout à l'heure, vous avez dit dans 50 ans, pour vous dans 50 ans, on saura faire, en tout cas on pourra faire?
Ce dont je suis sûr, c'est que dans le siècle à venir, la reproduction humaine va changer, et va changer en profondeur. Il n'y aura plus pour nos petits et arrière-petits-enfants la même vision de la reproduction, j'allais dire naturelle, que celle que nous avons aujourd'hui.
Peut-être pour la dernière question, est-ce qu'on peut vous demander d'enlever la casquette du scientifique pour celle du citoyen? Vous pensez qu'une avancée comme celle-ci est souhaitable pour l'humanité?
Je pense que les progrès techniques ne sont pas toujours un progrès pour l'homme et que de moins en moins ils vont l'être. Ce n'est pas aux médecins ni aux scientifiques de dire parmi les découvertes scientifiques et techniques quelles sont celles qu'il faut retenir et accepter et quelles sont celles qu'il faut laisser dans le placard.
Ouais, mais là vous bottez en touche, Israël Nizan, parce qu'on a envie d'avoir votre avis quand même. Qu'est-ce que vous en pensez vraiment de cette publication?
Je ne botte pas en touche parce que je pense que les médecins ont des conflits d'intérêts et veulent voir leurs découvertes et leurs initiatives couronnées de succès. Je pense très clairement qu'il faut que j'enlève ma casquette de médecin pour vous répondre.
C'est ça, exactement. C'est ce qu'on vous demande, si c'est possible.
Quand je prends ma casquette de citoyen, je suis très inquiet de tous les progrès qui ont lieu aujourd'hui, avec comme locomotive le marché.
Et c'est valable pour cet utérus artificiel ou sur l'idée
en tout
cas?
C'est valable pour cet utérus artificiel, c'est valable pour toute la médecine prédictive, c'est valable pour toute la génétique de la reproduction.
Merci beaucoup Israël Nizan, gynécologue obstétricien aux hôpitaux universitaires de Strasbourg et cofondateur donc de ce forum européen de bioéthique. Merci pour votre éclairage Israël Nizan.
De rien.
À bientôt. Axel, à demain.
À demain.
Allez, en bref, dans le reste de l'actualité scientifique, quand les bad trips nous ouvrent l'esprit, pour la première fois, les niveaux de conscience d'individus sous drogue psychédélique, de type LSD ou psilocybine et kétamine, ont été évalués par un modèle mathématique. Et surprise, eh bien, il est supérieur, cet état de conscience, à celui d'un cerveau en état normal. Ce résultat étonnant obtenu à l'aide d'une méthode qui évalue le niveau de conscience des sujets en fonction de la diversité des activités des neurones du cerveau laisse les chercheurs perplexes. S'il confirme que la conscience des sujets sous drogue atteint quantitativement un niveau supérieur à la normale, les scientifiques sont incapables de dire si c'est vrai aussi qualitativement. Un poisson de 4 cm avec plus de 1800 dents, décrit intégralement pour la première fois cette semaine par des chercheurs texans et australiens, le squelette de ce gobie à bec de canard dormait pourtant dans un bocal poussiéreux depuis 1977. Ces 1800 dents en forme de petits cônes sont disposées en rangées bien alignées sur ses mâchoires inférieures et supérieures. Les gobies saucidés, groupe auquel appartient le petit poisson, et bien justement sont capables de s'agripper par succion à toutes sortes de surfaces grâce à un système de disque adhésif ventral capable de contenir 150 fois leur poids. On peut donc dire que ce poisson on a dans le ventre et donc dans la bouche. Et puis enfin, si le lion est méchant, c'est peut-être parce qu'il a mal aux dents lui aussi. En 1898, un groupe d'ouvriers kényans a été victime d'une série d'attaques parmi les plus meurtrières de l'histoire. Plus d'une trentaine de personnes, donc à l'époque, avaient été tuées par un couple de lions affamés. Et depuis, les scientifiques se demandaient pourquoi ces deux individus avaient décidé de s'en prendre à un groupe d'hommes, chose plutôt rare dans la nature. La réponse se trouvait dans la mâchoire du plus meurtrier des deux lions, un énorme abcès dentaire encore bien visible sur le squelette du félin, laisse penser aux chercheurs que ce lion était incapable de chasser les zèbres ou les antilopes. C'est donc la faim qui l'a forcé à se rabattre sur des proies plus fragiles et moins dures à attraper, comme les hommes. Allez, la parité et les inégalités, c'est le dossier de l'émission dans un instant.
Bye.
et c'est Sinn Kane à l'instant.
La tête au carré, les mercredis psy et philo, avec Mathieu Vidard sur France Inter.
Avec un objectif cet après-midi, celui de la parité, avec nos confrères de Cerveau Psycho qui consacrent donc un dossier à ce thème dans leur dernier numéro. Et pour en parler, Thomas Breda est avec nous en studio. Vous êtes chercheur en économie au CNRS et à l'École d'économie de Paris. Et vous êtes spécialiste dans le domaine du travail, notamment en ce qui concerne les discriminations et les inégalités. Catherine Monod, vous êtes par téléphone avec nous. Vous êtes anthropologue spécialiste des questions de genre et d'éducation. Et vous avez publié un livre dont on avait déjà parlé d'ailleurs dans l'émission, Petite fille, l'apprentissage de la féminité aux éditions Autrement. Et puis également avec nous en studio, Sébastien Bollère, rédacteur en chef du magazine Cerveau et Psycho. Vos messages, vos questions, vos témoignages sans doute, franceinter.fr et le mot-clé l'attaque pour parler donc de cette question de la parité. Sébastien Bollère, ce sont les obstacles psychologiques au fond que vous avez étudiés pour ce dossier. On voit le nombre de mécanismes qui sont en jeu au fond, des mécanismes souvent inconscients. Hein.
Oui, alors il y a des mécanismes psychologiques effectivement collectifs, c'est pour ça que la psychologie sociale est vraiment un outil de choix hein, qu'il faut vraiment utiliser à fond pour progresser. Mmh. Et puis il y a aussi des facteurs hein, dont Thomas Breda nous parlera aussi, qui sont tout simplement situationnels, qui sont liés à la famille aujourd'hui, comment elle fonctionne, à l'organisation du travail. Donc il y a un petit peu tout ça. Mais effectivement, en creusant l'aspect psychologique, on voit qu'il y a beaucoup de mécanismes qui sont reproduits de façon inconsciente dans les familles, à l'école, et notamment les stéréotypes. Et quand on se demande vraiment comment les stéréotypes fonctionnent, qu'est-ce que c'est qu'un stéréotype, comment ouais. ça agit sur notre cerveau, on voit qu'on a quand même des outils aujourd'hui, grâce à notre connaissance en neurosciences, en psychologie, pour désamorcer certains mauvais penchants.
Mmh. Thomas Breda, justement, pour essayer de faire en sorte que les blocages puissent sauter, il faut s'intéresser vraiment de près à ce que nous dit la psychologie, alors ?
Oui, oui, c'est une bonne piste pour résorber une part des écarts, mais je peux que conforter ce que vous disiez, c'est-à-dire qu'il y a quand même aussi une partie des inégalités sur le marché du travail. Alors, mm-hmm. C'est mon champ, mon angle d'attaque. Sur le marché du travail, il y a une très forte partie des inégalités qui apparaît au moment de la naissance des enfants et aux mutations de l'organisation de la famille à ce moment-là. Et on voit que si on fait des décompositions des inégalités de salaire aujourd'hui sur le marché du travail, on voit que une forte partie s'est résorbée au cours du temps. Mettons, ils ont été divisés par deux, ou ils ont décru, mettons, de 30%. Après, mmh. ça dépend des pays, hein. Je vous fais un résumé vraiment très rapide, mais ça a décru. Mais en revanche, la part liée à ce qui se fait à la naissance des enfants, où là, les femmes typiquement ont des chutes de rémunération de l'ordre de 20%, à la fois parce qu'elles se retrouvent au sein de métiers moins bien rémunérés, et aussi parce que elles décident d'arrêter leur carrière, tout simplement. Et donc, pour ces raisons-là, on a un écart qui apparaît à ce moment-là très fort entre hommes et femmes, qui, lui, ne s'est pas résorbé au cours du temps et qui, aujourd'hui, explique une très grande fraction des inégalités sur le marché du travail.
Catherine Monod, si on s'intéresse justement à l'éducation, à l'enseignement et aux filières scientifiques, tiens, puisque ça nous intéresse tout particulièrement ici dans l'émission, toujours beaucoup d'inégalités, aussi peu de filles dans ces filières?
Alors avant le bac, non, il y a une nette amélioration puisqu'on atteint maintenant environ 40% de filles en filière S, en terminale. Mmh. Elles réussissent même mieux, elles ont davantage de mentions bien et très bien au bac que les garçons, y compris donc en S. Par contre, on assiste à une espèce de disparition des filles après le bac, notamment dans les filières considérées comme étant les filières d'excellence que sont les grandes écoles, les classes prépa, les classes d'ingé, etc. Et on retrouve davantage les filles dans les filières par contre de médecine, en PACES, donc dans des métiers effectivement scientifiques, mais dans un secteur aussi dont on sait que les conditions de travail vont en se dégradant, que les conditions de rémunération sont moins intéressantes qu'il y a en quelques années, et dont le statut social aussi se détériore un petit peu, notamment en milieu hospitalier et en médecine générale, où elles forment vraiment le gros des bataillons. Et
ça, c'est une des explications à la désertion des filles dans ces filières scientifiques, Catherine Monod ?
Alors, elles ne désertent pas, je répète, hein, en première et en terminale,
oui,
on les trouve de plus en plus nombreuses, ouais. Voilà. Mais après, elles se dirigent en fait vers des filières qui correspondent à ce qu'on attend des femmes dans la société, c'est-à-dire davantage des métiers tournés vers le soin aux autres, par exemple, et notamment évidemment en médecine ou même en classe vétérinaire. Mm-hmm. Par contre, tout ce qui est de l'ordre des métiers techniques, de production, d'industrie, là encore, cela reste considéré comme des métiers typiquement davantage masculin, féminins qui mettent en valeur les qualités et les valeurs masculines, et où les filles donc ne sont pas incitées à aller et où elles ne se retrouvent pas en tant que jeunes filles, jeunes femmes en devenir.
Oui, Sébastien Boller, elles postulent là où on les attend. Premier ressort inconscient au fond, hein.
Oui. C'est effectivement, il y a quelque chose qui semble se produire, et Thomas Breda m'en parlait effectivement dans notre interview, c'est que lorsqu'on interroge des jeunes filles au lycée, par exemple, sur la suite de leur carrière professionnelle, il semblerait qu'elles s'attendent effectivement à être discriminées dans les filières techniques, scientifiques, d'ingénierie, dans les études supérieures.
Donc il y a un découragement de départ, au fond.
Oui, il y a un découragement, et peut-être aussi ce qu'on appelle de temps en temps une autocensure. C'est le fait de se dire, je vais pas y aller, ça sert à rien, de toute façon c'est perdu, ça va être trop difficile. Voire, j'ai entendu dire que les filles, de toute façon, dans ces domaines-là, sont quand même un peu moins performantes. Jusque-là, c'était pas si sérieux, le bac ça va, mais après la compétition monte. L'idée de compétitivité aussi, parce que souvent il y a l'idée reçue selon laquelle les garçons seraient plus compétitifs, plus portés vers la compétition que les filles. Donc tout ça fait qu'effectivement, on a des jeunes filles vers 16-17 ans qui se disent, après, de toute façon, je vais me heurter à des murs trop difficilement franchissables, et ce qui fait que ça amoindrit après la capacité effectivement à mettre en œuvre les qualités cognitives, mentales, pour réussir, ce qu'on appelle la déplétion des ressources, le fait que quand on croit à un stéréotype, c'est difficile d'aller contre, donc on perd un peu de son énergie mentale, et effectivement, ça peut conduire à faire baisser les performances, et c'est ça qui est le plus terrible dans les stéréotypes.
Thomas Breda.
Oui, je voulais rebondir sur ce que disait Catherine Monod. Une étude d'une chercheuse américaine, Princeton, a regardé dans tous les champs de la recherche scientifique quels étaient ceux pour lesquels on pensait que le talent pur ou le génie était le plus important, les grandes facultés d'abstraction. Et on les a classés donc selon ce critère-là. Alors on voit que les mathématiques, typiquement, la philosophie aussi vont être ces disciplines-là. Et on a mis en face la proportion de femmes dans chacune de ces disciplines, et c'est extrêmement aligné. Donc on voit aussi qu'il y a ce stéréotype-là des disciplines qui vont requérir une forme de génie, alors même que c'est tout à fait pas vrai quand on voit la pratique de ces disciplines-là, ce stéréotype va être associé plutôt aux hommes, alors que les disciplines qui peut-être vont requérir plus d'efforts, tout ça va être plutôt associé aux femmes. Donc c'est un autre critère, et ça va plus loin du coup que la distinction juste science, pas science, parce que des disciplines comme la philosophie, par exemple, vont être extrêmement peu féminisées, pour cette raison-là, à cause de ce stéréotype-là.
Catherine Monod, vous êtes d'accord avec ça ?
Oui, tout à fait. Effectivement, on a tendance à se percevoir au travers des normes sociales du genre auquel on appartient, et donc à s'auto-attribuer les qualités et les défauts que la société attribue aux femmes donc et aux hommes. Et on a tendance à se dénigrer aussi en fonction de ça. Et on se rend compte que, exactement comme vous disiez, les filles ont tendance à se penser moins performantes en géométrie dans l'espace, en informatique, en mathématiques, etc. En miroir, de l'autre côté, les garçons se pensent moins performants en français, par exemple, en langue et en art plastique. Et on se rend compte que lorsque ils pratiquent ces disciplines-là de façon séparée et non pas en milieu mixte, eh bien ils deviennent progressivement et même en fait rapidement beaucoup plus performants parce qu'ils n'ont pas à se réfugier, on va dire, derrière un rôle social et des normes de genre qu'on leur attribue et qui finalement les freinent et les limitent.
Pour illustrer notre sujet sur la question des salaires, le film We Want Sex Equality, film britannique de 2010 et qui revient sur les revendications des femmes sous l'ère Thatcher.
Celles qui sont en faveur, non seulement de poursuivre, mais d'amplifier notre action syndicale en déclarant un arrêt de travail total et immédiat jusqu'à obtenir le même tarif horaire que les hommes.
Quoi ?
Tout à fait, pourquoi pas ? C'est ce qui est en jeu, il me semble, non ?
Ah mais non !
On a le tarif le plus bas de toute cette saloperie d'usine, bien qu'on ait des compétences très particulières.
Ah c'est vrai. Oui.
Il n'y a qu'une seule explication à cette chose-là. C'est parce qu'on est des femmes. Et sur le marché du travail, la femme est moins payée qu'un homme, quelles que soient ses compétences. Et c'est pour ça qu'à partir de maintenant, ce qu'on demande, c'est des conditions équitables et des salaires à la mesure du travail accompli. Et ça, c'est qu'on ait une queue ou non. Cette grève, c'est à propos d'une chose. Une seule et unique chose. La justice.
Voilà, Thomas Breda, ça c'était sous l'ère Thatcher, mais on pourrait prendre quasiment les mêmes mots, hein, pour revendiquer les mêmes choses.
Oui, absolument. Et puis ça montre aussi, au passage, alors là c'est moins du ressort de la psychologie, mais plutôt celui de la sociologie ou de l'économie, mais comment la construction de la valorisation du travail, des compétences via le syndicalisme, qui initialement est un mouvement qui s'est créé à une époque où les femmes ne participaient pas au marché du travail, avant la Seconde Guerre mondiale, a encore des conséquences aujourd'hui sur la façon dont on va valoriser les compétences au sein de métiers différents, qui pourtant requiert des mêmes niveaux de diplôme. Alors les pouvoirs publics s'emparent de ces questions-là maintenant, mais ça prend beaucoup de temps et il y a encore des exemples assez flagrants où des métiers qui ont l'air très similaires, on va les valoriser. Les syndicats négocient un peu différemment et ont du mal à valoriser de la même manière ceux qui sont typiquement féminins.
Ouais. Catherine Monod, ça paraît quand même hallucinant ces questions dans un pays comme la France aujourd'hui d'inégalité salariale entre les hommes et les femmes à poste équivalent. C'est quand même dingue, non, qu'on en soit toujours là.
Oui, et c'est pour ça qu'il faut faire attention, c'est-à-dire qu'effectivement, il y a bien une part d'inconscient et d'autocensure, on va dire même de la part des femmes, qui ne se positionnent pas forcément toujours dans la course à la réussite et dans la compétition parce que elles n'y ont pas été éduquées et aussi parce que ça va les mettre en danger dans leur identité de femme, parce qu'elles vont être vite considérées comme trop masculines, trop prédatrices, dominatrices, alors qu'on attend d'elles qu'elles soient discrètes, patientes, altruistes, etc., des qualités féminines. Mais attention aussi à ne pas sous-estimer la discrimination consciente et inconsciente qui persiste dans le monde du travail comme ailleurs et qui fait qu'elles n'évoluent pas dans un environnement professionnel qui leur est favorable voire même qu'elles vont avoir des limites et des obstacles qui vont leur être posés plus ou moins consciemment sur leur chemin. Attention à ne pas trop sous-estimer non plus la part du système dans ce plafond de verre. Elles ne sont pas seules à le créer.
Et c'est une façon de nous dire attention à ne pas stigmatiser les femmes aussi elles-mêmes.
Oui, il faut faire attention. C'est un peu confortable pour le système d'avoir trouvé cette solution. Alors, qui est une part de la réponse, hein, soyons clairs. Ouais. J'abonde dans ce sens. Mais c'est un peu facile aussi de faire uniquement reporter la responsabilité sur sur l'autocensure et de finalement, in fine, leur dire bon, bah écoutez, si vous vouliez bien dépasser vos petites limites, ces augmentations, ces promotions d'emploi, etc., vous les auriez comme tout le monde. Vous n'avez qu'à vous adapter et changer vos comportements pour que tout aille mieux pour vous. Ça n'est pas aussi simple, voilà. Et donc je sais bien que là, les collègues ne vont pas forcément vers cela, mais cette théorie donc de l'autocensure, ce qui n'est pas une théorie d'ailleurs, qui est un fait, mais ce phénomène de l'autocensure, il existe, c'est bien de le découvrir pour en faire prendre conscience, notamment aux femmes professionnelles, mais attention à ne pas trop déculpabiliser l'ensemble du système qui aurait tendance peut-être à se décharger dessus.
Ouais, on va entendre les garçons de ce studio sur cette question justement, Sébastien Voller, pour commencer.
Oui, alors nous, quand j'ai commencé à monter le dossier, j'avais l'intention d'essayer de quantifier un peu la part de discrimination volontaire, effectivement, de la part d'un employeur, par exemple. Et j'ai eu le sentiment que c'était assez difficile à quantifier. Alors, quand on a parlé avec Thomas Breda de cette question-là, lui, il m'a parlé de ses études qui ont été publiées dans Science, qui montraient que dans certaines conditions de recrutement en milieu universitaire, par exemple, on n'était peut-être plus dans ce schéma de discrimination volontaire, puisqu'il y avait au contraire de la discrimination positive. Vous parliez du recrutement pour le CAPES, pour l'agrégation. Mais il m'a dit, mais dans d'autres niveaux de qualification, c'est peut-être pas la même chose. Effectivement, on peut avoir de la discrimination active de la part d'un employeur, mais c'est très difficile de circonscrire la part, justement. Alors, je sais pas, moi, je pose la question, quelles données on a là-dessus? C'est vrai, comme vous venez de dire, madame, que les études de psychologie sociale ont plus insisté sur l'impact des psychologies, des stéréotypes sur l'autocensure, mais où en est-on vraiment de l'étude de la quantification de ce facteur de discrimination active dans le huis clos des cabinets de recrutement, par exemple?
On fait une petite incursion par le téléphone. Catherine Monod, vous voulez réagir?
Ce n'est pas pour le monde de l'emploi, mais dans l'éducation, j'ai pu me pencher sur cette problème de l'orientation des filles en sciences et en prépa, et donc j'ai pu me rendre compte qu'il y avait effectivement une part de d'inconscient de la part des filles et d'autocensure, puisqu'elles candidatent moins que les garçons en classe prépa, que voire même elles ne se présentent pas le jour J alors qu'elles ont été sélectionnées, elles ne se présentent pas à la rentrée, mais que entre les deux, malgré tout, il y a aussi une part du système qui sélectionne moins ces filles alors que elles ont proportionnellement de meilleurs dossiers. Elles sont sous-sélectionnées, alors qu'elles devraient être en réalité sur-sélectionnées, vu qu'elles ont de meilleurs dossiers. Donc il y a, pour moi, la petite fenêtre que j'avais pu étudier, celle de l'éducation, il y a une part qui est imputable à l'environnement, à l'autocensure, etc., aux stéréotypes dans la famille, et puis il y a une part qui est quand même imputable au système.
Thomas Breda.
Qui n'est pas forcément consciente, d'ailleurs.
Oui, j'affinerai peut-être un peu pour dire la part imputable au système, c'est à la fois des discriminations tout à fait fait direct ou à dossier égal, on va discriminer une personne, et à la fois quelque chose qui est plus sociétal au sens de l'organisation de la société, typiquement ce dont je parlais plus tôt, les congés parentaux. Sur la part discrimination, ce dont vous parliez, c'est un travail que j'avais mené avec une chercheuse qui s'appelle Mélina Hillion, qui montre que donc au CAPES et à l'agrégation, il y a effectivement une discrimination inverse.
Positive, ouais.
C'est-à-dire, alors elle est positive, mais pour les deux sexes, c'est-à-dire que le sexe minoritaire dans une discipline est celui qui va être favorisé. Mmh. Et on a fait cette expérience plusieurs fois, on l'a fait au CAPES, à l'agrégation, à Normalsup, des chercheurs américains l'ont fait. Donc il y a quand même maintenant tout un tas de recherches récentes qui montrent que, en fait, pour les hauts niveaux de qualification, si on regarde vraiment de la discrimination tout à fait directe, on va voir, notamment dans les disciplines où les femmes sont minoritaires, une favorisation des femmes tout au bout du processus.
Ouais. Vous êtes favorable, Catherine Monod, à ce type de démarche, justement, à faire en sorte de procéder à de la discrimination positive?
Bon, le système des quotas, hein, puisque ça revient à dire ça, dans les deux sens, hein, pour les hommes et pour les femmes, d'un point de vue éthique et moral, me gênerait aux entournures, mais il a montré ses effets positifs d'accélérateur social aux États-Unis, dans les pays du Nord, alors pas que sur les femmes, hein, sur les minorités en général. Socialement, je pense qu'il a beaucoup de vertus. Ceci dit, attention, c'est exactement ce que vous disiez, on parle des agrégés, des gens de Normalsup, tout le reste du marché du travail n'est pas forcément affecté exactement par les mêmes dynamiques, et il reste qu'aujourd'hui, chez les cadres en France, 20% d'écart de salaire, ça reste important parce que les dynamiques de carrière dans les entreprises ne sont pas les mêmes, qu'elles soient ou non ouvertement et consciemment discriminées, le fait est que le résultat est là, c'est ce que vous disiez, notamment par le problème de l'entrée dans la maternité, les femmes ne sont pas perçues comme étant aussi compétitives, elles ne se perçoivent pas aussi peut-être comme étant aussi compétitives et aussi efficaces sur les postes à responsabilité. Aussi présente, des qualités que l'on va plutôt attribuer aux hommes qui vont faire que ce qu'on appelle communément le club des vieux mâles blancs va avoir tendance à quand même à se coopter.
Thomas Breda, juste encore un mot sur les inégalités salariales. Comment on explique justement cette inégalité de la rémunération entre les hommes et les femmes alors ?
Alors on fait, il y a des exercices de décomposition qui sont faits, donc quand on parle d'un écart de 25%, ouais. On va avoir typiquement 10% de ces, enfin 10 points de pourcentage de ces 25% vont être expliqués par le fait que les femmes travaillent moins, sont plus souvent à temps partiel, typiquement. Après, donc dans les 15% qui restent, on peut expliquer ça par une ségrégation par métier. Et donc c'est typiquement cette ségrégation au sein des métiers qui découle des stéréotypes plus jeunes et qui justifie tout ce courant de recherche sur les stéréotypes.
Il y a des femmes plus engagées dans des métiers qui sont déjà à la base moins rémunérées.
Qui payent moins. Ouais. C'est pour ça d'ailleurs que d'un point de vue des politiques publiques, c'est très important d'essayer de comprendre le rôle des stéréotypes très tôt, qui orientent très tôt les femmes et les hommes vers des métiers différents. Et il se trouve que... Eh ben, devinez quoi, les métiers qu'occupent les femmes sont ceux qui se retrouvent les moins bien rémunérés. Donc là, on va expliquer un autre 5-6%. Il va rester un écart d'un peu moins de 10%, 7-8% inexpliqué. Alors certains vont l'attribuer directement à de la discrimination, puisqu'on ne peut pas l'expliquer par autre chose, mais c'est quand même un peu rapide. Au final, cet écart-là, il peut capturer de la discrimination, mais aussi d'autres phénomènes sociétaux, donc on n'est pas sûr. La seule manière, pour dire un dernier mot là-dessus, qu'on a de montrer de manière très claire la discrimination, c'est de faire ce qu'on appelle des expériences de testing, qui consistent à envoyer des CV, identitaire en tout point à des recruteurs, sauf par le sexe du candidat qui candidate. Donc on met un nom de femme ou un nom d'homme, et donc on peut voir comme ça la discrimination au recrutement.
Test infaillible.
Test infaillible.
Qui donne quoi,
parfait,
alors ?
Qui montre qu'aujourd'hui, alors ça dépend des métiers et des contextes, mais qui montre qu'il y a d'énormes discriminations contre les personnes d'origine étrangère, mais pas tant que ça contre les femmes, si on regarde ce type d'études-là. Voilà.
Allez, on se retrouve dans un instant pour la suite de notre dossier avec Cerveau et Psycho pour parler justement de la parité. C'est l'objectif de ce nouveau numéro actuellement dans les kiosques. Busted flat in Baton Rouge, waiting for a train, on us feeling near as faded as my jeans. Bobby thumbed a diesel down just before it rained. And rode us all the way into New Orleans. I pulled my harpoon out of my dirty red bandana. I was playing soft while Bobby sang the blues. Windshield wipers slapping time, I was holding Bobby's hand in mine. We sang every song that Javi knew. Freedom is just another word for nothing left to lose. Et la voix de Janis Joplin sur France Inter.
Comment se fait-il qu'il soit aussi difficile de confirmer un rendez-vous?
Je suis vraiment désolée, Miranda. En fait, je l'ai
confirmé. Les détails de votre incompétence n'ont nul intérêt pour moi. Dites à Simone que je refuse la fille qu'elle m'a envoyée pour les photos brésiliennes. J'avais dit une fille nette, souriante, sportive, et elle m'en donne une sale et bedonnante. Répondez oui pour la soirée de Michael Kors. Je veux qu'un chauffeur m'y dépose à 9h30 et passe me reprendre à 9h45. Exactement.
9h45.
Puis appelez Nathalie chez Glorious Foods et dites-lui non pour la centième fois. Je ne veux pas de dacquoise. Je veux des tourtes tièdes fourrées de rhubarbe compotées.
Oui.
Et puis dites à Richard que j'ai vu les photos qu'il a envoyées pour les pages sur les femmes commando parachutistes et elles sont toutes tellement laides. Est-ce donc impossible de trouver de sveltes et jolies femmes parachutistes?
Non,
je ne crois pas demander la lune si.
Pas du tout.
C'est mon avis. Ce sera tout.
Voilà, vous avez reconnu le diable s'habille en Prada à l'instant pour notre sujet sur la parité avec cerveau et psycho. Sébastien Boller, Catherine Monod par téléphone et Thomas Breda. Justement, vous avez un article consacré aux femmes de pouvoir, Sébastien.
Oui.
Ce sont les ennemis de la parité comme Meryl Streep à l'instant ou pas?
Alors, je voudrais pas dire ça parce que ce serait encore une fois rejeter la faute sur les femmes alors que c'est évidemment une société patriarcale qui est à l'origine quand même du problème qu'on évoque aujourd'hui. Mais les femmes de pouvoir, c'est une question à double tranchant parce que il y a d'une part la fonction de rôle modèle effectivement qui peut encourager certaines femmes à s'engager vers des carrières qui les mèneront très haut. On sait effectivement que des jeunes filles qui sont à l'âge du lycée, de la fac, si elles voient des femmes qui réussissent dans des fonctions prestigieuses, ça peut contribuer justement à faire sauter les verrous. Après, dans l'entreprise, il peut se passer effectivement un phénomène comme celui qu'on voit dans Le Diable s'habille en Prada.
C'est exactement ce que vous décrivez ce phénomène de la reine des abeilles, c'est ça.
La reine des abeilles, alors c'est un phénomène qui a été décrit justement dans cet article par une chercheuse de l'université de Genève qui s'appelle Cléa Fanico, qui travaille sur les inégalités de genre. La reine des abeilles, en fait, c'est un phénomène psychologique qui a été identifié à partir des années 1970 chez des dirigeantes de grandes entreprises qui atteignent un haut niveau de pouvoir. pouvoir, et qui est un petit peu paradoxale parce qu'elle semble, pour être arrivée à ce niveau de pouvoir, justement avoir endossé les habits du machisme, en s'hyper-masculinisant, pour pouvoir se fondre justement dans cet univers masculin, et qui du coup ont rejeté un petit peu justement certains attributs qu'elles peuvent voir chez leurs plus jeunes collaboratrices, et qui peuvent les amener à avoir une attitude condescendante, voire cassante, voire à freiner ces femmes qui voudraient arriver au même résultat qu'elles. Alors, à ça s'ajoute le fait qu'elles ont dû beaucoup batailler pour arriver là, à une époque où c'était très difficile, et donc faire beaucoup de sacrifices. Sacrifier leur famille, faire des horaires pas possibles, et du coup, rentrer dans un rôle où après, celles les plus jeunes qui arrivent et qui voudraient aussi arriver à cette part de responsabilité, mais peut-être aussi en conciliant la vie de famille, en conciliant des valeurs, entre guillemets, féminines, et elles vont le condamner, elles vont justement dire, il n'y a aucune raison. Moi, j'en ai bavé, je vois pas pourquoi on devrait dérouler le tapis rouge. Je suis contre les politiques de quotas. Donc ça, ce sont des citations texto, hein, qui ont été recueillies donc par cette psychologue sociale, et qui, je crois, recouvrent dans certains cas une réalité. Il faudrait pas à chaque fois dire que les femmes de pouvoir sont un obstacle pour les jeunes femmes qui rentrent dans la vie professionnelle, mais elles devraient peut-être pour certaines prendre conscience de ça pour se dire je devrais peut-être justement passer l'éponge et avoir une autre attitude.
Qu'en pensez-vous, Catherine Monod, de ce phénomène peu flatteur, hein, de reine des abeilles?
Oui, c'est ce que décrivait mon collègue, hein, c'est qu'on est dans un phénomène d'adaptation, on va dire, à un milieu hostile et d'adaptation aux normes du groupe dominant. Donc on appartient à un groupe dominé, minoritaire, on rentre dans le groupe dominant, on s'adapte à ses codes, à ses valeurs et on reproduit finalement aussi vis-à-vis de ceux qui arrivent, ceux qu'on a pu en partie subir précédemment. Donc je pense que cette idée d'arriver à conscientiser ces femmes qui sont arrivées à des postes de pouvoir est extrêmement important pour leur faire prendre conscience d'abord de ce qu'elles ont vécu, de ce qu'elles risquent de reproduire, et puis surtout de tout ce potentiel positif qu'elles ont entre les mains pour servir effectivement de modèle identitaire pour les plus jeunes, et non pas de faire du favoritisme, mais simplement de rééquilibrer et de réaplanir les chemins professionnels qui ne sont pas les mêmes, qui n'ont pas été les mêmes pour les femmes et les hommes sur les 30 dernières années.
Thomas Breda.
Oui, bon, moi j'ai pas grand-chose à ajouter, si ce n'est que c'est un phénomène qui est difficile à quantifier, donc évidemment on peut le documenter, il est très parlant, c'est quelque chose qui parle bien de voir ce phénomène-là, mais on rencontre quand même aussi des femmes d'entreprise dirigeantes qui sont très au fait de ces problématiques-là et qui mènent parfois même une double vie, un double combat pour essayer... Donc certaines en ont quand même aussi directement conscience, donc c'est difficile de savoir dans quelle mesure ce problème-là est vraiment répandu et important.
Les courriels des auditeurs, Catherine nous dit 90% des élèves professeurs des écoles sont des femmes. N'est-ce pas le signe d'une profession qui rapporte peu financièrement, considérée comme métier secondaire d'appoint dans un couple? 90%?
Oui, j'avais en tête 80%, mais c'est peut-être même encore
Monod,
plus.
Catherine Monod, vous confirmez le chiffre?
90% dans l'enseignement primaire et un peu moins au-dessus. Et en fait, plus on monte dans l'échelle de l'enseignement, dans le niveau de scientifique et de responsabilité et hiérarchique, moins on trouve de femmes, évidemment.
Qu'est-ce que ça dit? Qu'est-ce que ça dit, ce chiffre hallucinant, quand même?
Bah, il y a cette citation qui dit que là où les femmes arrivent, le pouvoir s'en va. Ben, on est un peu là. C'est-à-dire que le monde de l'enseignement s'est fortement féminisé dans les années 80. Pour coller, on va dire, au plus près au rythme de vie des enfants. C'est un métier typiquement féminin parce qu'il permet d'avoir des vacances et des journées pas à rallonge, paraît-il, pour ceux qui connaissent peu ou mal l'enseignement. Mais en tout cas, bon, voilà, au moins, il y a ce calendrier scolaire et professionnel qui se calque, voilà, qui explique une des raisons. Et puis, c'est le même phénomène qu'on est en train d'observer dans la médecine, hein, dont je parlais précédemment, ou en médecine générale, en médecine hospitalière, on a énormément de femmes, mais où en même temps, les conditions à la fois de symbolique, le statut social et les conditions économiques de rémunération et de profession, de travail, ont tendance à se dégrader.
Étienne nous dit par courriel, l'éducation à la parité, ça se joue très tôt, bien avant l'école, mais à la crèche, j'en sais quelque chose, je suis éducateur de jeunes enfants, un métier féminin à 97%, qui dit mieux? Les stéréotypes se transmettent dans les berceaux roses ou bleus. Quant aux différences de salaire, pensons à des congés paternité d'une longueur égale aux congés maternité. Les papas pourront s'investir dès le début dans leur paternité. L'humanité hommes et femmes ensemble, dit Étienne, on a tout à y gagner. Qui veut répondre, Thomas?
On est d'accord. Je crois qu'on est essentiellement d'accord.
Catherine Monod, vous voulez réagir?
Oui, il existe des outils, hein, de plus en plus pour arriver à sensibiliser les jeunes adolescents, même avant leur orientation en terminale, où c'est presque déjà trop tard, sur cette possibilité qu'il y a de transgresser les normes de genre dans le milieu professionnel, donc dès l'école pour pouvoir s'y préparer, c'est-à-dire les filles, les encourager à aller vers les métiers considérés comme masculins dans tous les niveaux de diplôme, du CAP au Bac plus 10, et dans la technique, dans la production, dans les sciences, etc. Et puis pour les garçons, à l'inverse, oser aller vers les métiers considérés comme féminins, vers le social, vers le sanitaire et social, vers les métiers de la petite enfance, parce que voilà, on peut y trouver à s'épanouir et à y apprendre des tas de choses sur soi. Par le biais d'expositions, de rencontres avec des professionnels, de journées portes ouvertes, on peut arriver à massivement sensibiliser les jeunes dès l'âge de 12-13 ans à cette possibilité qui est de s'ouvrir à de nouveaux horizons professionnels.
Thomas Breda.
Oui, en effet, hein, c'est la piste majeure. On essaye de... Ce qui semble bien marcher, c'est d'avoir pour les jeunes gens ce qu'on appelle des modèles positifs d'identification. Les anglo-saxons appellent ça des role models, c'est très à la mode. Donc c'est ce dont vous parliez tout à l'heure, Sébastien, l'idée de faire venir des jeunes femmes scientifiques, par exemple, dans les lycées pour essayer de raconter leur parcours, de donner de l'information sur les sciences, sur les stéréotypes qui associeraient les femmes aux lettres et les hommes aux sciences. Et ça, a priori, ça marche bien. Donc, on est en train de tester un dispositif de ce type en ce moment, en regardant aussi les études antérieures qui montrent dans le même genre de thématique qu'avoir un prof de mathématiques qui est une femme plutôt qu'un homme augmente fortement les résultats des jeunes filles en mathématiques et leurs chances de poursuivre.
Ouais. Alors justement, on va écouter un petit reportage qui date de 2015, qui avait été diffusé sur France 2, réalisé à Lyon dans le laboratoire du CERMEP, où on étudie le cerveau des filles. Et pendant un an, le cerveau des filles a été disséqué par des chercheurs du CNRS pour justement apporter des réponses à la question des mathématiques.
Installés dans cet IRM, parfaitement conscients, ils vont résoudre des équations mathématiques. 8 secondes pour ce calcul difficile. Les résultats obtenus sont presque les mêmes entre les filles en rouge et garçons en bleu. Mais à l'inverse, une simple petite phrase va tout changer.
Dans la série d'exercices qui va arriver, eh bien, il y a une différence de performance entre les hommes et les femmes.
Une performance différente. Une idée martelée, répétée depuis des générations. Les garçons auraient la bosse des maths, les filles ne seraient pas des matheuses. Ces idées reçues vont visiblement transformer le cerveau des filles. Au point de voir apparaître, ici, dans cette zone en jaune, une émotion négative qui va leur faire perdre leurs moyens.
C'est vraiment une région qui est spécialisée dans le traitement des émotions, notamment l'inhibition des émotions, c'est-à-dire qu'elles essayent de ne pas ressentir ce message émotionnel, mais ça ne marche pas très bien.
Et de fait, le score de bonnes réponses obtenues par les filles est inférieur.
Lorsque le stéréotype est activé, hein, les femmes sont à peu près à, pas tout à fait à 65%, alors que les hommes sont à 10 points de plus, donc à un peu plus de 75%.
Voilà, c'était Pascal Huguet, le psychologue du CNRS. Sébastien Boller, le stéréotype, on peut le lire dans le cerveau. Hein.
Voilà, cette expérience d'imagerie cérébrale confirme la compréhension qu'on avait de ce phénomène en psychologie. Ouais. C'est le modèle qu'on appelle déplétion des ressources. Ça veut dire que quand vous êtes confronté à un stéréotype, pour lutter contre ce stéréotype, pour faire face à l'émotion négative, vous devez consacrer une partie de vos ressources cognitives, de votre énergie mentale, et ça en fait d'autant moins d'énergie que vous pouvez consacrer à la résolution du problème. Donc c'est quelque chose qui reflète en fait la nature profonde de notre cerveau. Les croyances, enfin, vous connaissez l'effet placebo. Si on vous dit, on va vous donner un médicament qui va vous guérir,
on
et qu'en
croit.
Fait ce n'est rien,
on y croit.
Non seulement vous y croyez, mais ça va vous guérir. Donc il y a vraiment un impact de la croyance sur tout le fonctionnement du corps et de l'esprit, et donc il faut vraiment se méfier de ça, et c'est pour ça que, pour revenir à ce qu'on disait, ça se passe déjà avant l'école, dès le début en fait, dans l'éducation des filles et des garçons, quand les enfants vont au jardin d'enfants, c'est quelque chose qui a été documenté, vous regardez les attitudes des parents vis-à-vis de leur petit garçon, de leur petite fille, un petit garçon turbulent en général, on lui dit c'est normal, c'est un garçon, une petite fille turbulente, on lui dit tiens-toi bien, sois sage. Et c'est quelque chose dont on n'a absolument pas conscience, et il faut qu'on en ait conscience.
Allez, comme il nous reste peu de temps, j'aimerais quand même terminer par cette question. Thomas Breda, est-ce qu'on a étudié les effets positifs, au fond, justement, des entreprises où on pouvait constater une bonne parité, une bonne égalité entre les sexes ?
Oui, un petit peu. Alors, il y a tout un courant qui s'efforce d'essayer de montrer qu'avoir plus de mixité dans les entreprises, c'est bon pour la performance économique. Mais c'est un courant qui a assez peu de succès parce que, en fait, c'est ni bon ni mauvais en un sens. La performance économique est trop loin. Là, dans une recherche, on essaye de regarder plutôt l'effet sur la cohésion sociale dans l'entreprise, la satisfaction. Est-ce que d'avoir un univers plus mixte, les salariés sont plus satisfaits? Il se trouve qu'on voit plutôt que oui. C'est-à-dire que la satisfaction augmente et surtout celle des hommes. Ils ont l'impression que travailler plus avec des femmes, quand pour des raisons exogènes, la proportion de femmes dans leur environnement de travail augmente, les hommes se déclarent plus loyaux envers leur entreprise, ils s'identifient mieux à leur entreprise, les femmes aussi, mais les hommes davantage, et ils sont plutôt plus satisfaits. Alors, on ne sait pas exactement pourquoi, c'est la limite de cette recherche. Peut-être parce que quand il y a plus de femmes, on va avoir des conditions de travail qui se mettent en place, qui sont aussi plus souples, plus moins directement productivistes, et que ça va bénéficier à tous. Peut-être que c'est juste l'environnement de travail qui va être, du coup... moins délétère, c'est difficile de le savoir exactement.
Catherine Monod, vous avez un complément de réponse à apporter ?
Oui, peut-être de ne pas oublier aussi que malgré tout, l'égalité, la parité sur le lieu de travail, c'est une obligation légale. Et que donc c'est de notre responsabilité collective, mais c'est aussi un objectif vers lequel on doit réellement tendre et pas simplement avoir juste de bonnes intentions. Et donc il faut mettre des choses en œuvre concrètement dans les entreprises pour que les recrutements, les salaires, les avancées de carrière, les mises en responsabilité se fassent de façon plus égalitaire et en visant la parité.
Agnès nous dit, je voudrais souligner que la parité professionnelle passe aussi par la parité dans la vie familiale et les tâches ménagères. Un homme s'autorise souvent à prendre du temps pour travailler ou étudier. Et pendant ce temps-là, c'est la femme qui gère le quotidien avec les enfants. L'inverse est beaucoup plus rare ou doit rester exceptionnel.
Ça, c'est essentiel. Vraiment, encore une fois, l'un des nœuds principaux du problème.
Catherine Monod, vous êtes d'accord aussi avec ça ?
Oui, et le monde de l'entreprise est encore tourné vers des valeurs comme le présentéisme ou la mobilité qui font que les femmes ont tendance pour le coup à s'auto-écarter effectivement en amont de cette course à la réussite dans l'entreprise parce que la société leur impose encore d'être le pivot de la famille et que le partage des tâches n'existe pas en réalité. 80% des tâches domestiques sont encore accomplies par les femmes et que je pense effectivement tout le monde aurait gagné, le monde de l'entreprise comme le monde familial, à ce que les parents puissent se consacrer aux deux sphères de façon plus égalitaire. Plus équitable.
Merci beaucoup à tous les trois. Objectifs parité, faire sauter les verrous psychologiques, c'est dans Cerveau et Psycho à la une ce mois-ci. Catherine Monod, vous êtes l'auteur de ce livre, Petite fille, l'apprentissage de la féminité aux éditions Autrement. Sébastien, avant de vous quitter, un mot également sur votre thriller. Alors ça n'a rien à voir avec la parité, mais c'est L'homme qui haïssait le bien après Neuroland, votre précédent roman. C'est un nouveau thriller chez Robert Laffont.
Et ça parle quand même du fonctionnement du cerveau avec les recherches les plus récentes qui montrent que les grands psychopathes pourraient avoir un cerveau différent et que un moyen peut-être de les amener vers le bien serait un jour de réparer ce qui ne va pas. Mais c'est très polémique.
Et c'est dans L'homme qui haïssait le bien.
Tout à fait.
Voilà, nouveau titre de votre roman, donc publié chez Robert Laffont dans la collection Thriller. Merci beaucoup à vous tous.
Merci.
La science grand format, en partenariat avec France 5.
Et ce soir, sur France 5 à 20h50, un documentaire inédit, Conquérir le ciel, au programme. Bonjour Mathieu Barrault.
Bonjour.
Vous êtes pilote, ingénieur et professeur agrégé de construction mécanique à l'IUT de Cachan. C'est vous le scientifique du film ce soir, qui aborde ce grand rêve de l'humanité, celui de voler.
Exactement, c'est moi qui fais le rôle du passeur, et qui, à partir de mes compétences d'ingénieur et puis surtout de professeur, je pense, essaye de vulgariser un petit peu la science et puis me raconter cette belle histoire de l'invention de l'aéronautique.
Avec donc des portraits de fous qui ont essayé de voler par tous les moyens.
Alors je dirais plutôt de gens persévérants, ils ne sont pas tellement fous finalement, ils ont un objectif devant eux et ils persévèrent avec une grande passion, quoi. C'est surtout ça qui est important.
Ouais, et ce sont ces personnages qui ont écrit l'histoire de l'aviation. On va écouter un extrait du documentaire, justement, dans lequel on vous retrouve, avec le médiateur scientifique du Musée National des Arts et Métiers, Cédric Masterali, devant un des premiers avions, justement, conçus par Clément Ader, pour parler du premier vol motorisé de l'histoire.
Alors, je suis ébahi par cette magnifique machine qui est très Jules Vernesque, en fait. On dirait un rêve rétro-futuriste.
Ader est un ingénieur. Il est capable de mettre la tête dans les calculs et les mains dans le cambouis, en quelque sorte. On a vraiment affaire à une machine d'ingénieur totalement inspirée par le biomimétisme. Limite, on la voit très bien, la chauve-souris, la roussette des Indes, c'était le modèle qu'a choisi Clément Ader.
Quand on regarde cette gigantesque chauve-souris, on n'a qu'une envie, c'est de la voir battre des ailes. Et pourtant, Adair choisit un autre mode de propulsion, des hélices.
C'est plutôt une très bonne idée. On a un vol plané qui va être propulsé par l'action des hélices.
Après 7 années d'un travail acharné, Adair tente enfin un premier décollage à bord de son éole dans le parc du château de Gretz-Armainvilliers. Ce 9 octobre 1890, Clément Adair réalise le premier décollage motorisé de l'histoire.
Voilà Mathieu Barrault. Et on peut le voir d'ailleurs cet avion au Musée des Arts des Métiers.
Ah oui, tout à fait, il est absolument magnifique. C'est le 3e appareil qui a été construit par Clément Adair et qui présente surtout une caractéristique remarquable, c'est son système de propulsion, son moteur qui est vraiment remarquable.
Alors vous évoquez également l'aviation de demain, c'est ça qui est intéressant, vous faites vraiment le grand écart dans ce documentaire. Ça va donner quoi? Qu'est-ce qu'on va inventer là dans les années qui viennent?
Alors je dirais que du point de vue de l'ingénieur, les progrès sont des petits pas en fait à chaque fois. Actuellement, les grosses études au niveau de la SNECMA, par exemple, enfin de Safran, etc., portent surtout sur la propulsion et l'intégration de cette propulsion aux nouveaux avions. C'est-à-dire qu'on va avoir une sorte de paradoxe qui est un retour à des grandes hélices qu'on avait vu disparaître dans les années 70 au profit du réacteur, et finalement qui vont revenir sur des avions et qui vont modifier un petit peu l'architecture pour pouvoir les adapter. Mais les formes générales des avions ne vont pas énormément évoluer pour les avions de transport en tout cas.
Et c'est ce qu'on pourra donc découvrir ce soir. Conquérir le ciel, France 5, 20h50, dans la case Science Grand Format, documentaire produit par 2P2L. Merci beaucoup, Mathieu Barrault. Fabrice Drouel, bonjour.
Bonjour Mathieu Villard.
Affaires sensibles avec vous dans quelques minutes.
Oui, la fatwa contre l'écrivain Salman Rushdie en février 1989 pour ses fameux versets sataniques. Et nous recevrons Ramin Kamaran, professeur d'histoire contemporaine, spécialiste de l'Iran, membre du comité de soutien de Salman Rushdie en France.
À tout à l'heure, Fabrice, Nicolas Slimani et Florent Beauvalet étaient à la technique. Merci à eux et vous êtes sur France Inter, il est 15h.